Excusez-moi, j'avais oublié. Nous sommes donc dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9, versets 1 à 19. Paul, qui s'appelait alors Shaul, a été le premier à écrire à peu près 20 ans après Pâques, après la crucifixion et la résurrection. Il n'a pas écrit d'évangile, mais des textes, des lettres, plusieurs, à toutes les communautés qui se sont levées, dressées après son passage. Mais tout aurait pu être autrement. Shaul est bien juif, pharisien de formation. C'est un homme qui est au croisement de cultures multiples, né dans une grande ville, Tarse en Cilicie, de famille très certainement aisée, ce qui fait que probablement par elle, il est aussi citoyen romain. Et c'est un homme qui très certainement a une solide culture, un solide fond d'éducation grecque. Nous savons de lui, nous entendons parler de lui dans le livre des Actes des Apôtres, tout au début, lors de la lapidation d'Étienne. Et nous savons, lors de cette lapidation d'Étienne, qu'il est du parti de ceux qui lapident, de ceux qui sont des opposants violents aux disciples de Jésus, qui sont appelés eux aussi adeptes de la voie. Mais il est jeune à cette époque-là. On pense qu'il ne devait pas être majeur lors de la lapidation parce qu'il n'y a pas directement participé, il n'a pas lancé de pierre. Il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient et le texte nous dit bien qu'il approuvait ce qui se passait. Quelque temps plus tard, nous voici un peu plus loin dans le livre des Actes, c'est notre texte, nous retrouvons Paul, pharisien. Il ne s'appelle toujours pas Paul, c'est toujours Saul. Il s'appellera Paul plus tard. Le texte nous dit même que sa passion, son zèle contre les adeptes de la loi a décuplé. Tous les adeptes de la loi, il faut s'en rappeler, à l'exception des apôtres qui sont restés à Jérusalem, s'étaient enfuis et se cachaient loin de Jérusalem, témoignant, évangélisant discrètement. Et Saul désire les arrêter. Il désire les ramener à Jérusalem pour les juger, peut-être même pour les lapider. Shaul est donc en chemin entre Jérusalem et Damas. Il a la violence au cœur, nous dit le texte, et il porte pour justifier son projet des lettres, des ordres de mission signés du grand prêtre afin d'éradiquer la secte. On ne parle pas encore de chrétiens à cette époque-là. Les membres de la voie sont des juifs qui fréquentent les synagogues, mais dont leur maître est Jésus. J'imagine Shaul menant avec énergie sa troupe. Il est le chef, donc il doit marcher très certainement devant ces hommes. Je l'imagine aussi le visage fermé qu'ont toutes les personnes qui sont déterminées à en exclure d'autres. Il avance ainsi sur son chemin, avec sa propre compréhension de ce qui concerne Dieu, qu'il juge lui-même d'ailleurs étant la seule et la bonne compréhension des choses. Ses lettres lui donnent toute autorité pour effectuer son acte violent et la conviction, il a en lui la conviction qu'il est le guerrier de Dieu et que son combat est pour Dieu. Sur son chemin, brutalement, un arrêt. Une pleine lumière, un éblouissement tel qu'il en tombe. Une voix qui lui parle à lui, bien qu'entendue par les soldats. Le dialogue est bref. Cette phrase en témoigne, elle résume le pourquoi de cet éblouissement. Moi, je suis Jésus, celui que toi, tu persécutes. Il y a un « moi » qui parle à un « tu ». Jésus est là, arrêt inattendu sur ce chemin, ni encore Jérusalem, ni déjà Damas, attestant que Saul le persécute, lui, chaque fois qu'il persécute l'un des adeptes de la voie. Cela me fait penser à Matthieu 25, « Tout ce que vous aurez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'aurez fait. » Ce texte, vous le connaissez tous, il est souvent appelé la conversion de Scholl. Alors ce matin, je vous invite à réfléchir à ce qu'est cette conversion. Je ne dis pas forcément la conversion générale, parce que je n'en sais rien, mais en tout cas celle-ci. En un premier temps, il y a cet arrêt, ce moment de lumière intense, d'interpellation, ce moment de silence obligé de toute voix personnelle et intérieure pour Paul. Avez-vous remarqué, Scholl ne discute pas. Il ne dit autre mot que « Qui es-tu, Seigneur ?» Lui, que l'on connaît si bavard par ses lettres, est ici muet, comme le sont ses compagnons, eux de stupeur, arrêtés, ne voyant rien, entendant seulement. L'ordre donné par cette voix est d'être debout, prêt au mouvement, lève-toi, prêt à reprendre le chemin interrompu, mais avec un projet totalement retourné, détourné. Parce que Scholl est dérouté selon toutes les acceptions du terme. Muet, aveugle, il n'y voit plus. Il est contraint à obéir à la voix, V-O-I-X, le nom que suivent ceux de la voix, V-O-I-E. Il est contraint à oublier son orgueil, sa confiance en lui et en ses jugements. Il est contraint à laisser tomber ses lettres écrites par le grand prêtre. Il est contraint à continuer le chemin qui mène à Damas, non plus pour éradiquer le groupe des disciples, mais pour le rejoindre, pour se joindre à lui. Cette perte de vision est un signe pour lui de dépendance immédiate. Ce sont maintenant ses compagnons de voyage qui suivent le chemin en premier devant lui, le guidant, le tenant par la main. Il a l'occasion, en cette fin de voyage vers Damas, de découvrir ce qu'est la confiance vécue par toute personne dans cette situation. Il a l'occasion de découvrir que dépendre d'un guide n'est pas un signe de faiblesse, non, mais c'est plutôt un signe d'attachement et de grande confiance envers celui qui conduit. Et j'imagine que Scholl n'a jamais ressenti avant cela la simple idée qu'il pouvait dépendre de quelqu'un. Et voilà qu'il doit se laisser guider et qu'il doit en plus attendre qu'on lui dise quoi faire. Il n'y aurait pas eu de conversion s'il s'était simplement arrêté en chemin, puis était retourné vers Jérusalem, sans exécuter son projet. On aurait alors pensé qu'il avait changé de projet. Ses amis pharisiens auraient été certainement étonnés et en colère, mais n'auraient pas imaginé Scholl rejoignant les disciples de Jésus. Il lui faut donc continuer son voyage, aller jusqu'au terme de ce voyage, mais en perdant, en laissant tomber à terre là où lui-même est tombé, ses projets et les liens entre lui et son ancienne vie, symbolisés par ces lettres qui lui donnent autorité. Cette autorité, ces pouvoirs finalement, perdent toute leur signification puisqu'ils ne concernent plus Scholl. Cela, au point où j'en suis dans le texte, c'est-à-dire Scholl se laissant guider par ses compagnons, il ne le sait pas encore. Je n'en suis qu'à la première partie du récit. Scholl ne sait pas où il est conduit à Damas. Il n'y voit rien et il doit attendre des indications. Le texte nous dit qu'il est conduit dans une rue nommée la Droite, qu'il va dans une maison parfaitement déterminée, celle de Judas, qu'il ne dort ni ne mange durant 3 jours et qu'il prie. Et là, ma première remarque sur Scholl. Oui, dans sa vie, Scholl s'était trompé de chemin, mais sa foi en Dieu est vraie, réelle, non simulée, non hypocrite. Elle n'est pas un prétexte pour obtenir des pouvoirs, pour rassasier son orgueil, non, car dans le dénouement le plus complet, comme Jésus sur la croix, le seul roc auquel il s'appuie est Dieu. Scholl, pendant 3 jours, ne mange pas, ne boit pas, il ne voit rien, il est en prière. Mais cette conversion ne saurait exister non plus si Scholl était seul. Ce chemin totalement retourné depuis cet arrêt éblouissant entre Jérusalem et Damas engage dans une autre vie. C'est une traversée par Scholl des apparences que pouvaient être toutes les oppositions des pharisiens et prêtres juifs à la bonne nouvelle pour entrer dans la vie, la seule, que portaient les disciples de Jésus en invoquant son nom. Encore fallait-il, et là intervient l'autre phase de la conversion, que les disciples de la voie admettent, comprennent ce radical changement de Scholl, qu'eux aussi acceptent de traverser comme apparence les convictions qu'ils avaient de Scholl, leur ennemi zélé. Et l'on voit bien dans le texte qu'Ananias est interrogatif, réticent. Tout le monde sait l'acharnement de Scholl contre les disciples, que ce soit à Jérusalem ou que ce soit ici. Tout le monde connaît ses pouvoirs, son autorité, sa volonté de farouche opposant. Il faut bien dans notre vie et dans toute la vie des Ananias pour prendre des risques. Car il en prend des risques, Ananias. En se rendant voir Scholl, il en prend encore bien plus en lui redonnant la vue. Et si la docilité de Scholl n'était que pure ruse? Il entend, Ananias, ce qui signifie aussi « il obéit » dans la confiance, ce message si paradoxal du Seigneur. « Va, car cet homme, oui, cet homme, qui est un farouche zélé, contre les adeptes de la voie, cet homme est l'instrument que j'ai choisi pour porter mon nom, devant les nations et les rois comme devant les Israélites. Je lui montrerai moi-même tout ce qu'il lui faudra souffrir pour mon nom. » La conversion de Scholl est un véritable détournement. Comme pour le chemin qui reste le même, de Jérusalem à Damas, mais dont le projet final tombe et change, le zèle de Scholl, ses grandes qualités d'orateur, de porteur de parole, d'ambassadeur efficace, restent identiques. Mais leur but n'est plus de détruire le nom et ceux qu'il invoque. Non, il est à l'opposé pour servir le nom et le porter. Et le projet est ambitieux, ouvert. Le peuple juif, non seulement, mais aussi les nations, les gouvernants des nations. Et là encore, Scholl va devoir abandonner sa culture juive. On le sait, le judaïsme, encore maintenant, n'est pas une religion prosélyte, ouverte aux nations, cherchant à faire des disciples. Il aura à y penser et à poursuivre sa conversion quelques années plus tard, lorsqu'il constatera tant de païens demandant à être disciples du Christ. Ananias, donc, est aussi un homme de foi solide. Ainsi que ceux qui auront du mal à admettre Scholl parmi les leurs, que ce soit à Damas ou à Jérusalem. Ce sera en constatant les actes et les paroles de Saul et la volonté de ses anciens compagnons de le détruire, car à leurs yeux il est devenu un traître, qu'ils l'accepteront parmi eux. Il devra souffrir pour être accepté par les adeptes de la voie. Ainsi, cette conversion n'aurait pas pu avoir lieu sans cette foi de quelques-uns comme Ananias, et puis un peu après de Barnabé, et puis de tant d'autres qui ont pris le risque d'admettre Scholl parmi eux. Je ferai une deuxième remarque. En lisant ce texte complet, comme nous venons de le faire, nous constatons que cette conversion s'accompagne d'un mouvement de pardon. Le pardon qui est un recommencement avec les mêmes êtres, sans oublier ou effacer ce qui a pu les opposer, les séparer avant, mais avec un projet bien clair qui les dépasse, celui de porter le nom devant le monde. Et ce projet en lui-même réduit à zéro les oppositions, enlève tout doute ou tout soupçon. C'est un projet qui se saisit de ces êtres réconciliés. Porter le nom saisit et engage sa propre vie, la tient droite devant tous les dangers qu'elle affronte, lui fait prendre des risques, affronter et accepter les souffrances pour que le nom soit invoqué. Mais aussi, au final, cette entrée dans la vie, j'écrirai ça avec un V majuscule, dans la voie qui refuse toute apparence. Je parle des hypocrisies qui cachent les vérités par soi sombres de chacun de nous. Et il aura fallu un maître d'œuvre pour ce projet, car nous ne sommes pas seuls, capables tout seuls, et ce maître d'œuvre, c'est Dieu, son pardon et sa volonté de se saisir de tout ce qu'il aime pour créer la vie. Ananias, tout comme Shaul, s'était tourné avant même cet épisode vers Dieu. Seul Shaul n'avait pas pris le bon chemin. Avait-il été aveuglé dans son discernement bien avant d'être aveuglé par cet éblouissement sur son chemin de Damas? Peut-être. Pour nous tous, ce chemin de Damas est porteur d'espérance. À Dieu seul, par la vie de Christ, faisons confiance, quoi qu'il nous arrive. Nos ancêtres huguenots disaient « Soli Deo Gloria ». Comme Shaul, demandons dans les temps difficiles à Dieu d'éclairer et d'orienter nos discernements et nos compréhensions. Comme Ananias, puis Barnabé et tous les disciples de Damas et d'ailleurs de Jérusalem, les apôtres, acceptons que Dieu choisisse comme porteur de nom celles et ceux que nous avons déjà dans nos aveuglements et nos peurs exclus d'un tel ministère. De chacun et chacune de nous sont aussi et souvent attendus des temps de conversion, des temps de traversée des voiles que nos pensées, nos jugements, nos orgueils, nos égoïsmes accumulent devant nos yeux comme des écailles. Celles-ci doivent tomber aussi, les écailles. Puissions-nous accueillir de tels éblouissements et cette réorientation de nos vies sur la voie, celle de la rencontre avec la vie que Dieu nous offre. Amen.